Imaginons un instant qu'un texte ancien vienne t'affirmer que les actions les plus morales, les plus charitables, les plus irréprochables en apparence, que ces actions pourraient en réalité être perçues par le divin comme l'équivalent strict d'un meurtre.
C'est brutal, n'est-ce pas?
Ah oui, complètement. Habituellement, l'esprit humain aime bien considérer la moralité comme, genre, une simple radiographie médicale.
C'est vrai. On se casse le bras, la radio montre une ligne blanche bien nette et on sait exactement où est le problème.
C'est ça. Le bien d'un côté, le mal de l'autre.
Ouais, c'est le grand confort de la pensée binaire, en fait. L'être humain réclame cette certitude visible pour se rassurer sur sa propre valeur.
Mais bon, dès l'instant où l'on pénètre dans la complexité de la nature humaine, avec ses motivations cachées et, disons-le, son ego souvent surdimensionné, cette belle clarté s'effondre.
Totalement.
Et aujourd'hui, pour notre plongée en profondeur au cœur de ces textes anciens, on va se concentrer sur les enseignements du docteur John Oswalt.
Oui, plus spécifiquement sur son analyse des derniers chapitres du livre d'Ésaïe, les chapitres 63 à 66.
L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de décortiquer une idée assez radicale. C'est l'incapacité fondamentale de l'être humain à produire une véritable justice par ses propres moyens.
Exactement. Et on va examiner une structure littéraire fascinante construite en forme d'escalier.
Ouais.
Et surtout, on va devoir se confronter à la symbolique extrêmement violente utilisée par l'auteur biblique pour décrire l'intervention divine.
Alors, pour bien saisir l'ampleur de ce bouleversement, il faut qu'on pose un peu le cadre théologique.
C'est indispensable, oui. Si l'on regarde les chapitres précédents d'Ésaïe, du chapitre 40 au chapitre 55, le grand thème, c'est le salut par la grâce pure.
Donc, l'idée centrale, c'est qu'aucune repentance préalable n'est exigée pour être sauvée. C'est un don total.
Voilà. Mais la section qu'on analyse aujourd'hui, à partir du chapitre 56, elle ajoute une couche de complexité redoutable.
Ah bon ? Quel genre de nuance ?
Eh bien, elle avance que la droiture, donc le comportement juste au quotidien, l'éthique appliquée,
ouais.
Ça ne peut pas non plus être accompli par la seule force de la volonté humaine. Cette droiture doit, elle aussi, être obtenue par la grâce.
D'accord. Analysons un peu tout ça. Parce que c'est là que je trouve que la source ancienne prend un virage vraiment inattendu. Pour illustrer cette impuissance humaine, on s'attendrait à un discours philosophique un peu apaisant, non ?
C'est ce qu'on voudrait, oui.
Or, le texte n'y va pas du tout par quatre chemins. L'image utilisée est sanglante, intense, presque choquante en fait.
Elle est même terrifiante.
On nous présente un guerrier divin, implacable, qui arrive de Botsra, qui est la capitale d'Édom.
Et ce détail géographique, il est fondamental pour comprendre la psychologie du texte.
Comment ça ?
Historiquement, Édom, c'est le symbole absolu de l'ennemi juré d'Israël.
Ah, d'accord.
Mais ce qui est fascinant ici dans l'analyse du docteur Oswalt, c'est le décalage chronologique.
C'est-à-dire ?
Au moment où ces mots sont supposés résonner pour les exilés, Édom, en tant que puissance géopolitique, n'existe pratiquement plus.
Vraiment ?
Oui, les Babyloniens les avaient déjà anéantis et des tribus comme les Nabatéens avaient pris leur place.
Donc, utiliser le nom d'Édom ici, c'est pas genre un bulletin d'information géopolitique ?
Pas du tout. C'est une allégorie pure et dure. Ça représente tout ce qui s'oppose au bien, que ce soit une menace extérieure ou, de façon plus subtile, la corruption intérieure.
Attends, je bloque un peu ici sur l'imagerie. L'image visuelle décrite dans le chapitre 63, c'est celle d'un guerrier qui marche. Et ses vêtements sont aspergés de rouge jusqu'aux genoux.
Oui.
On pourrait se dire, bon, il rentre des vendanges, il a écrasé du raisin.
C'est souvent l'image utilisée à l'époque.
Mais là, le texte précise un détail glaçant. C'est pas du jus de raisin, c'est du sang.
Exactement.
Et c'est là qu'on arrive à un paradoxe qui me dépasse un peu. On parle d'un dieu de grâce, mais ce guerrier, qui représente le Christ dans cette tradition théologique, eh bien, il n'est pas couvert du sang de ses ennemis physiques.
Non, et c'est là le grand bouleversement. Il est aspergé de son propre sang.
Waouh !
Parce qu'il est littéralement devenu les péchés de son peuple.
Mais comment est-ce qu'on concilie cette brutalité inouïe avec l'idée d'une grâce imméritée ? C'est contradictoire.
Eh bien, c'est toute la tension de cette théologie. Il y a une distinction très vitale à faire selon la source.
Laquelle ?
Plutôt dans le livre, on rencontre la célèbre figure du serviteur souffrant.
Oui, le fameux serviteur.
Ce serviteur, il prend sur lui les péchés passés, avec douceur, en silence, un peu comme un agneau.
D'accord.
Mais le guerrier divin qu'on voit ici, il a une fonction radicalement différente. Il ne vient pas effacer le passé, il vient détruire le pouvoir du péché dans la vie présente des croyants.
Ah, je vois la nuance. Donc la violence de l'image est nécessaire parce que le mal ou l'égoïsme, ça ne cède pas face à une simple suggestion polie.
C'est tout à fait ça. Il faut une guerre active et, oui, violente, contre ce qui corrompt l'âme en quotidien.
Donc, si on essaie de résumer et de visualiser un peu la mécanique de la chose.
Vas-y.
Le serviteur souffrant, c'est un peu comme une éponge ultra-absorbante qui éponge silencieusement un produit toxique qu'on aurait renversé par accident.
C'est une bonne image, oui.
Mais le guerrier divin, c'est carrément le détachant industriel ultra-corrosif qu'on doit frotter agressivement sur une tache profondément incrustée dans la fibre pour la forcer à se dissoudre.
Cette analogie est parfaite. Et c'est précisément ce que la théologie moderne cherche très souvent à gommer.
C'est vrai qu'on en parle moins.
Oui, il y a une tendance très nette aujourd'hui à occulter cette deuxième partie. On préfère se concentrer exclusivement sur le pardon des erreurs passées, ta fameuse métaphore de l'éponge, car c'est réconfortant.
C'est clair que c'est plus rassurant.
Mais omettre le concept du guerrier divin, c'est refuser de voir qu'un combat acharné contre le péché continue et totalement indispensable.
C'est un combat permanent, du coup. Mais bon, ça soulève une autre question psychologique majeure.
Laquelle ?
Eh bien, si une force divine doit agir comme ce guerrier implacable pour nettoyer le désordre humain, parce que l'humanité en est fondamentalement incapable, comment les gens réagissent-ils face à cette réalité ?
On pourrait espérer une immense gratitude.
Exactement. De la gratitude ou une humilité profonde, mais selon le texte, la réaction décrite est tout autre.
Et c'est là que le miroir tendu à la nature humaine devient fascinant. Le texte introduit d'abord un concept hébreu magnifique, de la fin du chapitre 63 au chapitre 64. C'est le chesed.
Le chesed, oui.
C'est bien plus qu'une simple pitié. C'est une dévotion loyale et imméritée d'un supérieur envers un inférieur.
D'accord.
Et à ce moment précis, on note une vraie prise de conscience chez le peuple. D'ailleurs, fait très rare dans l'Ancien Testament, il mentionne l'Esprit Saint à plusieurs reprises.
Ah oui, c'est pas courant dans l'Ancien Testament.
Non, vraiment pas. Ils admettent publiquement qu'une discipline extérieure, comme de juste suivre la Torah à la lettre, bah ça ne suffit pas. Ils ont besoin de cet esprit à l'intérieur d'eux pour espérer respecter les lois divines.
D'accord. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Ils font ce constat d'échec, ils réalisent leur besoin d'une transformation interne, et puis
la psychologie bascule complètement.
C'est fou. Au lieu d'assumer, ils se lancent dans le grand jeu des reproches.
Oui.
Ils accusent Dieu de leur propre faille morale, avec des questions d'une audace incroyable, genre « Pourquoi endurcis-tu nos cœurs ?» ou encore « Tu as choisi Abraham autrefois, tu nous dois donc quelque chose. »
C'est ahurissant de mauvaise foi.
Mais c'est absurde. Ces gens agissent exactement comme des héritiers capricieux.
Comment ça ?
Eh bien, ils dilapident toute leur fortune en faisant n'importe quoi, et ensuite ils vont hurler sur leur banquier en lui disant que c'est de sa faute à lui, puisqu'il leur a donné accès au compte bancaire.
C'est une excellente comparaison. En fait, c'est une réaction de défense psychologique très classique face à la dissonance cognitive.
Tu peux développer un peu ?
Responsable. Assumer son incapacité morale, ça demande un effondrement de l'ego.
Et ça, ça fait mal.
Exactement. Il est beaucoup plus confortable de blâmer les circonstances, ou même Dieu, lui-même. Le peuple utilise son élection, donc le fait d'être le peuple choisi.
Ouais.
Bah, il l'utilise non pas comme une grâce, mais comme un droit acquis. Un lock sur Dieu, si tu préfères.
Une sorte de passe-droit divin.
C'est ça.
Le syndrome de l'enfant gâté dans toute sa splendeur.
Et ils vont même plus loin. Ils vont jusqu'à exiger que Dieu déchire les cieux et descende sur terre, au chapitre 64.
Tout à fait.
Et on pourrait se dire, oh c'est super, c'est pour pouvoir enfin se repentir en personne.
Mais pas du tout, pas du tout. C'est uniquement pour que leurs ennemis tremblent de peur. C'est d'un égocentrisme terrifiant. Du coup, comment est-ce que Dieu perçoit cette attitude d'ayant droit, surtout quand, en apparence, ces gens font semblant d'être hyper pieux ?
La réponse apportée au chapitre 65 est un recadrage d'une sévérité absolue. Il est expliqué que Dieu était prêt à être trouvé, qu'il tendait les mains, mais que ce peuple ne le cherchait pas vraiment.
Il cherchait quoi alors ?
Il cherchait des transactions. D'accord.
Et pour combler ce vide de relations véritables, Dieu les accuse de sombrer dans des rituels qui confinent à l'absurde, avec des pratiques païennes extravagantes.
Ouais, le texte est super spécifique là-dessus. On parle de sacrifier dans des jardins secrets, de s'asseoir dans des tombes pour consulter les morts, de manger de la viande de porc ou du bouillon de viandes avariées. Oui, des choses impensables pour la loi juive.
Et tout cela avec un complexe de supériorité sidérant. Ils osent dire aux autres « Reste à distance, ne me touche pas, je suis trop saint pour toi ».
Mais c'est là que l'analyse du docteur Oswald propose une interprétation saisissante. Et ça change complètement la donne.
Ah oui ?
Oui. L'horreur ne réside peut-être pas seulement dans le fait qu'ils pratiquaient l'occultisme ou mangeaient du porc.
Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?
L'idée soulevée, c'est que peut-être que ces gens faisaient scrupuleusement toutes les bonnes choses religieuses.
Attends, les bonnes choses ?
Oui. Peut-être qu'ils sacrifiaient un bœuf selon les règles, qu'ils priaient correctement, mais avec cette attitude de supériorité orgueilleuse, avec la mauvaise attitude.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Que la pratique religieuse, même rigoureuse, comme, je sais pas, assister aux offices deux fois par semaine ou faire ses dévotions, ça peut être considéré par Dieu comme l'équivalent d'un meurtre si c'est fait pour gonfler son propre ego.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, oui. C'est exactement ce que dit le chapitre 66.
C'est fou.
Pour Dieu, égorger un bœuf en sacrifice avec un cœur arrogant, c'est comme tuer un homme. Offrir de l'encens, c'est comme bénir une idole. Faire une offrande, c'est comme briser la nuque d'un chien.
Waouh !
L'obéissance extérieure sans humilité intérieure n'est qu'une tentative de manipuler Dieu. Tout est une question d'attitude.
C'est une perspective foudroyante.
Le texte décrit cette fausse sainteté comme, je cite, « une fumée dans les narines de Dieu ».
Une fumée dans les narines, ouais, c'est super irritant.
C'est étouffant. Le seul véritable serviteur, c'est celui qui est humble et contrit.
C'est un renversement total de nos systèmes de valeurs qui sont tellement basés sur le mérite visible.
Exactement.
Mais bon, ça amène une complication philosophique immédiate.
Vas-y.
Si la vraie droiture est si difficile à atteindre et qu'elle exige une humilité si absolue, on se heurte à la réalité de notre monde.
C'est-à-dire ?
Dans ce monde, les justes, ceux qui essayent d'agir avec intégrité, et souffrent souvent de manière cruelle. Et à l'inverse, les méchants et les manipulateurs prospèrent.
Oui, c'est le grand drame humain.
Du coup, comment les promesses absolues de Dieu peuvent-elles s'accomplir de manière juste si ça ne se réalise pas ici-bas ?
C'est la question centrale. Et c'est ce qui rend l'introduction du concept des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, au chapitre 65, si crucial.
Ah oui, les nouveaux cieux.
Il faut savoir que dans l'immense majorité de l'Ancien Testament, l'accent est très rarement mis sur la vie éternelle.
C'est vrai.
Alors pourquoi ce besoin soudain d'inventer ou de révéler cette nouvelle dimension céleste, selon la source, Ekarni Shuv Araf ?
Pourquoi du coup ?
Parce que la réalité terrestre est sévèrement endommagée. Les conséquences de nos actes ne se reflètent pas toujours équitablement dans cette vie.
C'est clair.
Donc, pour que les promesses absolues de bénédiction de Dieu soient respectées, il faut logiquement une réalité au-delà de celle-ci.
C'est un lien de cause à effet, en fait.
Exactement. Les cieux nouveaux sont la cause pour laquelle les gens pourront enfin prêter serment par le Dieu de vérité, car la justice y sera parfaite.
C'est hyper intéressant. En fait, c'est un peu comme travailler pour une start-up qui est au bord de la faillite.
Ouais, j'aime bien cette idée.
Bah, tu vois, tu fais tout parfaitement. Tu fais des heures sup, t'es une éthique irréprochable, mais tu n'obtiens aucune prime physique immédiate parce que les caisses sont vides.
Oui.
La seule raison de continuer avec cette intégrité, c'est la garantie absolue du PDG qu'il va créer une toute nouvelle entreprise florissante où tes actions seront enfin récompensées à leur juste valeur. Sinon, ça n'a aucun sens.
J'adore cette analogie. C'est très parlant. Et ça souligne que sans cette perspective céleste, la mentalité cynique dominerait.
Bah oui, le fameux « profitons-en tant qu'on peut en écrasant les autres ».
Voilà. Car la justice terrestre est beaucoup trop imparfaite.
Ouais.
Et la beauté de cette nouvelle entreprise, pour reprendre ton image, c'est qu'au chapitre 66, on assiste à un retournement radical sur qui est embauché.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Des gentils, donc des nations étrangères, vont faire partie de ce nouveau monde.
Et les fameuses nations lointaines.
Oui, le texte cite spécifiquement Tarsis, Pul, Lud, Tubal et Javan.
C'est des noms très précis.
Ce sont les extrémités du monde connu de l'époque. Ces étrangers viendront voir la gloire de Dieu et, chose incroyable, le texte dit qu'ils seront même pris comme prêtres et lévites.
Ah, waouh.
Des rôles sacrés autrefois strictement réservés par le sang. C'est d'une ouverture majestueuse.
Une espérance lumineuse, vraiment. Mais, parce qu'il y a un mais. Notre source fait bien remarquer que le livre d'Ésaïe se termine sur une note très contrasté.
Oui, de la même manière que le chapitre 1, d'ailleurs.
Ça oscille violemment entre le salut et le jugement.
Absolument.
D'ailleurs, la toute fin est extrêmement dure. On parle du verset 24 du chapitre 66.
C'est souvent très difficile à lire pour nous aujourd'hui.
Ouais. Le texte dit que les sauvés sortent et contemplent les cadavres de ceux qui se sont rebellés, avec, je cite, « leur ver qui ne mourra point et leur feu qui ne s'éteindra point ». Ils deviennent une horreur pour toute chair. C'est glaçant comme fin.
C'est très abrupt. Mais le message final retenu par la source, c'est qu'au fond, il y a un choix définitif à faire. Une neutralité est impossible.
Il faut faire le bon choix, quoi.
C'est ça. Et cela soulève une question importante sur la façon dont on lit ces textes aujourd'hui.
C'est vrai.
Analyser ces informations bibliques ou historiques n'a de valeur que si ça suscite chez nous une réflexion critique sur notre propre réalité.
Et ça nous amène d'ailleurs à une réflexion fascinante pour clore cette analyse. Quand on y pense, à l'attention de notre auditoire, si nos propres bonnes actions peuvent être perçues comme une insulte, cette fameuse « fumée dans les narines », lorsqu'elles sont motivées par l'ego.
Oui, l'intention derrière l'acte.
Eh bien, que cela nous apprend-il sur notre culture moderne ? On vit dans une époque obsédée par l'affichage public de la vertu, le fameux « virtue signaling ».
Complètement, oui.
On cherche sans cesse la validation sociale sur les réseaux en affichant nos bonnes causes.
C'est très juste.
Alors on pourrait se demander, sommes-nous vraiment en quête d'une transformation intérieure profonde ou essayons-nous simplement de manipuler notre image publique pour avoir l'air d'être des gens bien ?
C'est une excellente question à se poser.
Et je pense que c'est une pensée inconfortable, mais nécessaire, qu'on va laisser à ceux qui nous écoutent le soin de méditer.